Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles. Prenez le feu de votre amour. Veillez votre Esprit, Seigneur, je ferai une création nouvelle. Prions, mon Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien. La joie sans cesse, ces divines consolations, pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
priez
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola,
priez pour nous.
Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, nous allons un petit peu avancer dans ce petit commentaire à partir des pères. Ouais. Mais c'est un petit peu ce qu'il faut faire. C'est de même que j'ai commencé un cours sur la somme de saint Thomas d'Aquin qui, j'espère, va vous donner envie d'aller étudier la somme plus profondément. De la même façon, de brosser un peu un tableau rapide des commentaires des pères de l'Église sur les évangiles de Carême devrait vous donner envie d'aller chercher un peu plus profondément ce qui se dit, ce qui s'est dit. Ça, si un jour vous pouvez mettre la main sur comme ce livre là que j'utilise, donc c'est le Bréviaire romain, une traduction de d'Ongrea, avec des notes et une introduction d'Ongrea, qui est un auteur très sûr, ça aide énormément. J'ai quelques paroissiens qui font déjà, sur Nantes entre autres, qui ont trouvé ce livre, et qui tous les jours, par exemple, s'obligent à lire les leçons du Bréviaire du jour. Donc c'est la partie de l'Écriture sainte, trois leçons de la vie du saint du jour et trois leçons du commentaire de l'évangile de la vie du saint, de la messe du saint. Je crois que c'est absolument excellent pour, encore une fois, pour essayer d'obtenir ce qu'on appelle l'esprit d'église. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà expliqué souvent, avoir ce nez catholique qui est tellement important, penser tel que l'église a toujours pensé. Alors, continue d'avancer, encore une fois, je brosse simplement, je survole ces choses-là, on n'a pas le temps d'aller en profondeur, mais j'espère que ça va vous aider un petit peu. Donc là, il y a un beau texte, déjà dans le lundi, la troisième semaine de Carême, donc après le troisième dimanche de Carême. Là, il y a un beau texte, c'est un texte de Saint Ambroise, donc c'est des textes qui sont très anciens, vous voyez, ce qui est extraordinaire dans l'Église, c'est ces textes sont des textes qui ont 17 siècles, 1700 ans, qui n'ont pas pris une ride, hein. Ben voilà ce que dit ici saint Ambroise. Donc il met en garde les fidèles contre ce qu'il appelle les âmes endormies, ou des âmes qui s'endorment. Hein. Une âme endormie, il faut distinguer entre ce qu'on appelle une âme endormie, ce qu'on peut appeler une âme morte. Une âme morte, c'est une âme qui vit dans le péché mortel. Bon, la porte est étroitement fermée, on ne peut plus rentrer, le bon Dieu ne peut pas rentrer sans que cette personne accepte de rouvrir un peu la porte. Mais ce qui est peut-être plus dangereux encore, c'est ce qu'on appelle des âmes endormies. Qu'est-ce qu'une âme endormie ? Une âme endormie, c'est une âme qui se vaut dans le péché voyant, qui cherche même plus à s'en sortir. Et je préfère avoir parfois devant moi des âmes qui tombent occasionnellement dans le péché mortel, plutôt que des âmes endormies. L'âme endormie, c'est l'âme libérale, celui qui se trouve très bien comme elle est, qui ne cherche absolument pas à changer. Vous voyez ce que dit saint Ambroise ? Il fait une distinction ici qui est importante. Donc je répète, c'est lundi de après le troisième dimanche de l'Avent. La parole toujours salutaire du Seigneur nous donne évidemment ici un enseignement. Elle nous exhorte à nous porter avec zèle au culte de la divinité, car elle nous montre que celui seul fut guéri et délivré de la maladie dont son corps portait les marques et qui s'applique qu'à chercher sa guérison par l'accomplissement consciencieux de ce qui lui était prescrit. Donc c'est une allusion au Syrien Naaman, donc qui est guéri. Et voilà ce que dit saint Ambroise, ce n'est pas aux âmes qui s'endorment, mais bien aux âmes vigilantes et agissantes que sont accordés les bienfaits divins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bienfaits du bon Dieu ne sont pas accordés aux âmes endormies. J'ai dit dans un autre livre, dit saint Ambroise, que cette veuve à laquelle Élie fut envoyé est une figure prophétique de l'Église. Ce fut le peuple hébreu qui, le premier, forma l'Église, Mais pour faire base, un autre peuple composé des nations étrangères. Ce peuple-là était lépreux et tout maculé avant d'être plongé dans le fleuve mystique. Ce même peuple, après avoir reçu le sacrement du baptême, s'est trouvé purifié de ses tâches corporelles et spirituelles. Il n'a plus de lèpre, mais il est devenu une vierge immaculée sans ride. Donc la lèpre, c'est le symbole, évidemment, dans tous les textes bibliques d'ailleurs, c'est toujours été le symbole de la lèpre du péché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir comprendre notre Seigneur Jésus-Christ, s'approcher des grâces qui sont préparées au pied de la croix, eh bien, il faut être purifié du péché. Si mon âme est pleine de péchés, eh bien, surtout de péchés graves, même de péchés véniels, il y a beaucoup trop de fidèles qui, parfois, pensent que le péché véniel, c'est pas grand-chose. Je le vois, par exemple, je vous l'ai souvent dit, mais c'est très, très fréquent. Heureusement, c'est beaucoup moins fréquent depuis que j'ai quitté la fraternité. La fraternité, c'est très, très fréquent. Les gens qui me disaient, ils posaient toujours la même question, surtout au début de vacances, ça arrivait souvent. Vous savez, je vais faire ça, est-ce que c'est un péché mortel? Eh bien, je faisais très attention de jamais répondre quand ce n'était pas un péché mortel, mais un simple péché véniel. Il faut juste pas que je dise, non, c'est pas mortel, c'est véniel seulement. Parce que si je disais ça, je voyais un grand sourire qui se formait sur le visage, et les gars se disaient, bah, donc je peux le faire parce que c'est un péché véniel. Comme si, parce que c'est véniel, on peut le faire. Donc j'étais obligé de répondre en disant simplement, c'est un péché. Vous savez, je veux savoir si c'est mortel ou véniel. C'est un péché, ça suffit, ça ne se fait pas. Vous me comprenez, je tirais la verre du nez, et en fin de compte, la réponse était, vous savez, si c'est mortel, je ne le fais pas, mais si c'est véniel, je m'en fiche, je le fais quand même. Imaginez un époux qui veut faire quelque chose qui déplaît à sa femme, alors il peut lui déplaire souverainement, ou il peut lui déplaire... pas trop méchamment, mais lui déplaire quand même. Si un époux aime sa femme, il ne va pas se dire « Bon, ben, je vais faire ça parce que ça déplaît à ma femme, c'est pas très grave, elle s'habituera à la chose que je vais faire parce que c'est pas lui déplaire souverainement. » Vous voyez ? Ça, c'est très grave parce que c'est une conception de la vie spirituelle qui est totalement fausse. Alors, en général, qu'est-ce que font ces gens-là ? Ils vont placer la barre du péché mortel et puis ils vont la frôler par la partie inférieure, vous voyez ? Aller le plus proche possible du péché véniel. Ben, une âme comme ça, c'est une âme qui... C'est comme un oiseau qui ne peut pas voler parce qu'il a filé la patte, vous voyez. Une âme comme ça ne pourra jamais, jamais s'élever. Et je pense que c'est certainement une des raisons principales qui explique la catastrophe des années 50 et 60 qui ont préparé les années de Vatican II. Je pense que la raison, elle est là, c'est-à-dire une espèce de tiédeur spirituelle. Saint Ambroise utilise le mot d'âme qui s'endorme, d'âme endormie, c'est un peu ça, c'est une âme tiède, vous voyez. Donc il faut demander cette grâce au bon Dieu. Hein. Alors, il y a d'autres textes qui relisent un peu la même chose. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Oui, dans un autre texte, un peu plus loin, c'est encore le même Saint Ambroise, donc il parle aussi de ces maladies. Il va faire un parallèle entre les maladies physiques et les maladies spirituelles. Là, c'est au moment où, c'est l'évangile, où Jésus entre dans la maison de Simon-Pierre, donc, et la belle-mère de Simon avait une grosse fièvre. Et bien voilà ce que nous dit Saint Ambroise. Il dit, la belle-mère des apôtres Simon et André était-elle la figure notre chair mortelle qui languit, accablée par les fièvres multiples des passions et consumée par ses désirs immodérés de jouissance. J'ose dire qu'une affection désordonnée n'est pas moins une fièvre que celle dont la chaleur se fait sentir au corps. L'une brûle celui-ci, l'autre brûle l'âme. Donc la fièvre brûle le corps, mais l'affection désordonnée va brûler l'âme. Notre fièvre, c'est sans doute l'avarice. Notre fièvre, c'est le caprice. Notre fièvre, c'est la luxure. Notre fièvre, c'est l'ambition. Notre fièvre, c'est le penchant à la colère. Vous voyez ? Donc il fait une belle comparaison, qu'on trouve souvent dans ces textes, justement, c'est de comprendre que, de même que la fièvre physique brûle le corps, l'affection désordonnée empêche la grâce de passer, et donc l'affection désordonnée va brûler l'âme d'une façon comparable. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que de même que si je commence à avoir la fièvre et que je ne m'occupe pas d'arrêter ça tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la fièvre va devenir de plus en plus importante. Et puis au bout d'un certain degré, elle va nous rendre incapables de faire quoi que ce soit. Parce que si la fièvre dépasse, je ne sais pas, 42 degrés par exemple, eh bien, on ne sera plus capable de travailler, faire quoi que ce soit, parce que notre corps sera brûlant de fièvre. C'est la même chose, vous voyez, pour la vie spirituelle. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire, je pense, qu'un catholique qui se complaît dans le péché véniel. C'est une raison, c'est un détail, mais sans dire long. Une condition, par exemple, pour gagner l'indulgence plénière, c'est de détacher du péché véniel, justement à cause de ça. Et ça, c'est plus difficile à comprendre, parce que la plupart de nos fidèles arrivent à comprendre sans aucun problème qu'il ne faut pas commettre un péché mortel. Mais le péché véniel, ils ont un peu tendance à considérer que ce n'est pas si grave que ça, et finalement que ce n'est pas un péché. Vous voyez, je crois qu'on peut dire que le bon Dieu a certainement plus de peine d'une personne qui vit ordinairement dans le péché véniel que d'une personne qui commet de temps en temps un péché mortel, mais qui, après l'avoir commis, se précipite au confessionnal pour réparer sa faute et fait pénitence immédiatement. Parce que justement, celui qui vit ordinairement dans le péché véniel, il se trouve très bien comme ça, il n'a aucune envie de changer. Oui. Alors, il y a d'autres textes. Donc, sur la fatigue de notre Seigneur, ça c'est le vendredi, la troisième semaine de carême. Hein. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est fatigué, il s'assoit sur la margelle du puits, il est fatigué dans sa nature humaine, ce qui est parfaitement possible, hein, puisqu'il avait pris une nature tout à fait semblable à la nôtre, en tout sauf le péché. Et Saint Augustin dit la chose suivante, c'est pour toi que Jésus est fatigué du chemin. Hein. Nous trouvons en Jésus et la force et la faiblesse. Il nous apparaît tout à la fois puissant et anéanti. Ça, c'est une image qui explique bien la double nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu et homme. Il est Dieu sans cesser. Il est Dieu et homme. Il est homme sans cesser d'être Dieu. Donc, c'est, si vous voulez, la nature divine est inchangée entre Seigneur, même si la nature humaine se rattache à cette nature divine. Là, il y a un passage splendide qui est assez connu de Saint Augustin. Nous trouvons en Jésus et la force et la faiblesse. Il nous apparaît tout à la fois puissant et anéanti. Il est puissant car au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, au commencement il était Dieu. Ça, c'est la divinité. Veux-tu savoir quelle est la puissance du Fils de Dieu? Il cite Saint Jean, « Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien n'a été fait. » Y a-t-il rien de plus fort que celui qui a fait toutes choses sans éprouver de lassitude? Veux-tu connaître sa faiblesse? Là, il parle de l'humanité. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. La puissance du Christ, c'est splendide. La puissance du Christ t'a créé, la faiblesse du Christ t'a recréé. La puissance du Christ a donné l'être à ce qui n'était pas, la faiblesse du Christ a empêché ce qui était de périr. C'est dans sa force qu'il nous a créés, c'est dans son infirmité qu'il est venu à notre recherche. Donc, on peut se poser la question de savoir est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ manifeste plus sa miséricorde en exerçant justement sa divinité sur nous ou son humanité. Et donc, l'humanité, si vous voulez, le problème c'est qu'il faut arriver à voir notre Seigneur Jésus-Christ les deux natures, et la divine et l'humaine, sans perdre de vue l'une ou l'autre. Parce que c'est toujours la tentation dans ce domaine-là, c'est-à-dire de trop appuyer sur l'humanité ou au contraire de trop appuyer sur la divinité. Il faut garder l'équilibre. Il est à la fois Dieu et à la fois homme. Alors, si on appuie trop sur la divinité, on oublie l'humanité, et bien on va finir par exemple par tomber dans toutes les hérésies qui tournent autour du jansénisme. Le jansénisme, c'est un peu ça. On oublie l'humanité de notre Seigneur. On oublie la miséricorde. La miséricorde devient presque quelque chose de méprisant, de méprisé. C'est ça qu'on a Saint Jean, Saint François de Sales appelé le jansénisme l'hérésie de glace. Bon. Mais l'inverse est aussi vrai. Le deuxième danger, c'est au contraire d'appuyer beaucoup trop, sans doute, sur l'humanité et d'oublier complètement la divinité. Ça, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, il faut garder un équilibre entre les deux. Il ne faut pas vouloir être plus royaliste que le roi. Et sinon, on arrive à faire des bêtises. Moi, juste après-midi, un échange de courrier pénible avec un monsieur que je ne connais pas, mais qui m'écrit, qui fait partie de ces gens qui disent que Pie XII, le pape Pie XII, serait trompé dans son fameux discours sur les le discours au sage-femme d'octobre 51, le discours fameux où il explique dans la régulation des naissances de façon naturelle. Eh bien, ce monsieur, ce pauvre monsieur était plein de mépris pour Pie XII en disant « mais c'est du libéralisme, on ne peut pas accepter ces choses-là ». Moi, je lui ai répondu en lui disant « mais monsieur, vous oubliez une chose, c'est que Pie XII est infaillible dans ce texte-là aussi ». Parce que c'est le magistère ordinaire de l'Église, il parle comme pape, il parle sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église. Donc les quatre conditions d'ex-cathédrale sont là, ce texte est infaillible, autant que le texte de Pie XI. Et donc si vous estimez qu'il y a une contradiction entre le texte de Pie XI et le texte de Pie XII, j'ai donc le choix, ou c'est vous qui vous trompez, ou c'est Pie XII qui se trompe. Je pense que vous n'êtes pas protégé par l'infaillibilité pontificale, donc c'est certainement vous qui vous trompez, certainement pas Pie XI. Vous voyez, et ça c'est un peu une tendance. Vous voyez, il faut bien se garder de tomber dans ces excès-là, parce qu'à ce moment-là, on tombe dans une espèce de rigorisme. Vous voyez, c'est pas... De même qu'il ne faut pas pousser trop sur la divinité et oublier l'humanité en notre Seigneur Jésus-Christ, de même qu'il ne faut pas trop pousser sur l'humanité et oublier sa divinité, il ne faut pas non plus, sous prétexte qu'on lutte contre le libéralisme, de tomber dans le rigorisme. Beaucoup de gens nous rappellent toujours que le libéralisme est condamné par l'Église, c'est parfaitement exact, mais ils oublient de préciser que le rigorisme a aussi été condamné par l'Église. Et le rigorisme, ça veut dire on fait pratiquement disparaître la notion de bienveillance, de douceur, si vous voulez, en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où on oublie complètement son humanité. Il est parfaitement homme, tout en étant parfaitement Dieu en même temps. Alors sinon, on en arrive à des absurdités, il en arrivait, il a posé me le dire dans le texte, mais c'est ce que ça voulait dire, que pratiquement Pie XII n'était pas pape. Pie XII n'était pas pape, et puis la deuxième conclusion qu'il a posé me dire non plus, c'est que comme Pie XII a canonisé le pape Saint-Pie X, donc Saint-Pie X n'était pas pape, n'était pas canonisable, puisqu'il a été canonisé par Pie XII, qui n'était pas pape, donc la canonisation de Saint-Pie X vaut rien. Oui, on va comme ça. Je me rappelle, une fois, Mgr Lefebvre a eu un mail à partir avec un séminariste mexicain qui avait ce genre d'idées. Et Mgr a regardé droit dans les yeux et a dit, vous savez, moi je trouve que notre Seigneur Jésus-Christ était un peu libéral en pardonnant si rapidement Sainte Marie-Madeleine. Il a dû se tromper aussi. Et puis après, il a mis à la porte. Pour bien lui faire comprendre que ça commençait à bien faire, quoi. Et c'est ça. C'est pas parce qu'on est dans la tradition que ça veut dire qu'il faut être dur. Il y a une dur dans le sens d'amour de la doctrine, oui. Mais plein de mensuétude, comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a été. Vous voyez, c'est pour ça que ce texte est magnifique, c'est tellement les plus beaux textes de saint Augustin. Vous voyez. Donc, on voit en Jésus, entre Seigneur Jésus-Christ, et la force et la faiblesse. La force et la divinité. Donc, il cite « Au commencement était le Verbe était Dieu, au commencement était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien n'a été fait. » Et il cite aussi la faiblesse, c'est le Verbe qui s'est fait chair. La faiblesse, on peut citer d'autres exemples de faiblesse apparente en notre Seigneur Jésus-Christ. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, du haut de la croix, dit « mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Comment vous allez comprendre ça, vous ? Le Créateur, le Fils de Dieu, qui dit « mon Père, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et il y a des gens qui ont perdu la foi à cause de cette phrase. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ parle en tant qu'être humain. Il ne parle pas en tant que Dieu. Il parle dans son humanité, il parle dans sa divinité. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « Mon âme est triste à en mourir, Père, s'il est possible que votre volonté, que ce calice passe loin de moi, mais cependant que votre volonté soit faite et la mienne. » Il parle comme homme. Vous voyez ? Et justement, des textes comme ça qui sont magnifiques parce qu'ils nous aident à comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ a véritablement pris la nature humaine. Donc, il faut garder les deux choses. Ne pas couper la chose en deux et oublier complètement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Alors, il y a d'autres textes qui expliquent un petit peu ça. Alors, c'est un texte, par exemple, encore de saint Augustin. Donc, notre Seigneur nous a apporté la vérité comme docteur, mais aussi la douceur comme libérateur, la justice comme celui qui connaît tout. Hein. Alors, justement, à cause de cette douceur de notre Seigneur Jésus-Christ, cette mansuétude de notre Seigneur Jésus-Christ, cette libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on peut comprendre justement que notre Seigneur Jésus-Christ se fait homme précisément pour appliquer à chacun d'entre nous cette douceur et cette mansuétude. Notre Seigneur Jésus-Christ est plein de mansuétude pour le pécheur qui revient vers lui. Évidemment, quand il a devant lui un pécheur qui refuse de se convertir, c'est autre chose. Et on le voit très bien dans le comportement de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à Saint-Pierre, le comportement de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à Judas. Bon, pourquoi? Parce que Judas, quel est le crime de Judas? Judas est tombé dans un péché contre le Saint-Esprit. Saint Paul nous dit bien que ce péché est irrémissible, dans le sens que tant qu'on reste dans une situation de ce genre, il n'est pas pardonnable. Et quel est le péché de Judas? Le péché de Judas, c'est d'avoir limité la miséricorde du bon Dieu. En gros, il s'est dit, mon péché est trop grand, Dieu lui-même ne peut plus le pardonner parce qu'il est trop grand. Et ça, c'est un blasphème épouvantable. Parce que limiter la miséricorde du bon Dieu, c'est limiter sa divinité. Et donc, si on limite sa divinité, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Et je crois qu'il faut bien comprendre ça. Alors, au contraire, qu'est-ce qu'a fait Saint-Pierre? Saint-Pierre, vous savez, pratiquement c'est le même péché, le péché de Saint-Pierre, le péché de Judas, je ne vois pas trop les différences, hein. Mais la différence énorme est au fait que quand Saint-Pierre a commis son péché, trois fois de suite, il a renié notre Seigneur Jésus-Christ à cause d'une accusation, une petite servante devant le feu, la nuit donc, du jeudi saint au vendredi saint, simplement lui dit, mais dis donc, tu n'étais pas avec notre Seigneur, tu n'étais pas avec Jésus, il me semble que ton accent te trahit, tu es Galilée. Et tout de suite, je ne connais pas cet homme, je ne sais pas de qui tu parles. Et il y a ce passage dans l'évangile très beau, on voit notre Seigneur Jésus qui quitte la maison d'Annas, qui va à la maison de Caïphe, et en passant d'une maison à l'autre, donc il regarde Saint-Pierre qui vient de le trahir. Saint-Pierre se rappelle, à ce moment le coq a chanté, il s'est rappelé cette phrase de notre Seigneur, avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras trahi trois fois. Et notre Seigneur regarde Saint-Pierre, et dans ce regard, c'est un regard d'amour. Et à cette phrase, Saint-Pierre sortit et pleura amèrement. Il est certain que notre Seigneur Jésus-Christ devait déjà être en train de lui donner l'absolution. Eh bien, il faut comprendre que si Judas avait fait la même chose, eh bien, il y aurait le même résultat, Judas serait au ciel. Hein. Il a fallu que suffit que Judas demande pardon à notre Seigneur Jésus-Christ au Jardin des Oliviers, au moment de après l'agonie, au moment où Judas vient pour mener la troupe de soldats, la troupe de juifs, de membres du Sanhédrin, notre Seigneur Jésus-Christ, pour le faire arrêter. Il aurait suffi qu'ils se reprennent, qu'ils se mettent à genoux au pied de notre Seigneur pour demander pardon, notre Seigneur pardonne tout, c'était tout terminé. C'est pour ça que dans toutes les pénitences du carême, ont pour but, si vous voulez, de nous faire atteindre cette mansuétude de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, encore une fois, le jeûne, sans cet état d'esprit, il ne vaut plus rien. Là, il y a l'oraison du samedi après le troisième dimanche de carême, le dit bien, nous vous en prions, Dieu Tout-Puissant, accordez à ceux qui, pour mortifier leur chair, s'abstiennent des viandes, la grâce de jeûner aussi du péché en pratiquant la justice. Donc, qu'est-ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ? Le jeûne du péché, d'accord? Alors, vous savez qu'il y a une image qui est très belle de ce mélange d'humanité et de divinité, notre Seigneur Jésus-Christ, les vrais dieux et vrais hommes à la fois. On dit que c'est le Père de l'Église qui dit qu'il y a une image de cette double nature de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le buisson qui brûle dans le désert au temps de Moïse. Donc Moïse est dans le désert en train de garder les brebis ou les chèvres de son beau-père, Jéthro. Et il voit un buisson qui brûle sans se consumer. Ben, ce buisson qui brûle sans se consumer, c'est un symbole de l'incarnation. Il y a la double nature de notre Seigneur Jésus-Christ, donc la flamme, si vous voulez, la flamme qui est vraiment qui représente la lumière divine, et en même temps le buisson qui lui est humain, mais qui ne se consomme pas, parce que justement il y a cette union avec la divinité. Il y a un texte de Saint Grégoire sur le sujet. Que montrait le Seigneur en parlant à Moïse du milieu du buisson ardent? Sinon que de ce peuple sortirait celui qui, dans le feu de sa divinité, prendrait les douleurs de notre chair comme les épines du buisson et conserverait intact dans les flammes de sa divinité la substance de notre humanité. Je vous rends compte de la profondeur d'une phrase pareille. Je répète, c'est des phrases qui ont été écrites, ça c'est Saint Grégoire le Grand, c'est des phrases qui ont 14 siècles, 15 siècles. De ce peuple sortirait donc le peuple juif sortirait celui qui, dans le feu de sa divinité, prendrait les douleurs de notre chair comme les épines du buisson et conservera intact dans les flammes de sa divinité la substance de notre humanité. Donc il dit que les épines du buisson représentent l'humanité de notre Seigneur. Et le fait que ce buisson ne puisse pas être corrompu et détruit par le feu montre la divinité. D'accord ? Alors, il y a d'autres faits qui sont expliqués par les pères de l'Église, à Saint-Simon de Saint-Basile le Grand, qu'on trouve un peu plus loin dans la quatrième dimanche de Carême. Il part du texte, vous savez que lorsque Moïse est monté sur la montagne pour recevoir du Dieu les tables de la loi, pendant ce temps-là, Aaron faisait, son frère, donc faisait prévariquer tout le peuple, fabriquer le faux de veau d'or, ils sont tous tombés dans l'idolâtrie. Vous voyez. Et il y a cette phrase dans l'Ancien Testament, le peuple s'assit pour manger, pour boire, et ils se levèrent pour jouer. C'est le symbole, si vous voulez, de l'âme liée à la grâce du bon Dieu, qui abandonne la grâce du bon Dieu pour se précipiter dans la prévarication. Et voilà ce que dit Saint Basile. Nous savons que Moïse gravit la montagne sans prendre de nourriture. Car s'il n'avait été fortifié par le jeûne, il n'aurait pas osé approcher de ce sommet fumant et entrer dans la nuée. C'est par le jeûne qu'il mérita de recevoir les tables où les commandements étaient écrits des doigts de Dieu. Sur la montagne, le jeûne obtint le don de la loi. Mais au pied de cette montagne, la gourmandise fit tomber le peuple dans l'idolâtrie et le souilla du péché. Le peuple s'assit, l'écriture, pour manger et pour boire, ils se levèrent pour jouer. L'intempérance du peuple rendit en un seul jour inutile et sans résultat l'effort et la persévérance de 40 jours que le serviteur de Dieu avait passé en jeûnant et en priant continuellement. Les tables écrites du doigt de Dieu que le jeûne avait mérité, l'intempérance les brisa. Car le très saint prophète jugea qu'un peuple plein de vin était indigne de recevoir la loi de Dieu. Vous voyez, on voit toujours la même image, c'est-à-dire l'humanité et la divinité. De même qu'en nous, c'est un peu pareil, il y a une certaine forme. C'est une comparaison n'est pas raison. Il y a une certaine forme de divinité en nous et une humanité qui est là. La divinité en nous, si vous voulez, c'est le travail de la grâce sanctifiante. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc quand un homme est en état de grâce, la grâce sanctifiante en lui divinise d'une certaine façon l'homme. Au contraire, quand l'homme commet le péché, cette grâce sanctifiante saute et est éliminée, si vous voulez. Donc la divinité, la partie divine de notre organisme spirituel disparaît, et c'est l'humanité qui prend le dessus. Mais... Après, il explique un peu plus ce peuple, il parle du peuple juif, que les plus grands prodiges avaient instruit de l'honneur qu'il faut rendre à Dieu, fut en un seul moment, par l'effet de la gourmandise, précipité de la manière la plus honteuse dans l'idolâtrie des Égyptiens. Si on compare ensemble ces deux faits, on peut voir que le jeûne conduit à Dieu, tandis que les délices compromettent le salut. Le jeûne engendre donc des prophètes, et affermit et fortifie ceux qui sont déjà forts. Et c'est le sens que donnaient les pères de l'Église au jeûne. Alors, je continue un petit peu d'avancer. Il y a d'autres textes ici qui parlent de... Attendez, je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est... Il faut que je retrouve le passage. Donc, et c'est un Saint Jean Chrysostome qui fait un commentaire sur un capitule donc, de l'office du temps de Carême pour le quatrième dimanche de Carême. Et qui dit ceci, « Régis-toi, stérile, qui n'enfante point, pousse des cris de jubilation, d'allégresse, toi qui ne deviens pas mère, parce que les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui a un mari. » Et Saint Jean Chrysostome fait ce commentaire qui est très beau. « Quelle est donc cette femme délaissée jusqu'alors ? N'est-il pas évident que c'est l'Église des gentils, c'est l'Église catholique, dont elle était privée de la connaissance de Dieu ? Quelle est cette femme qui avait un mari ? N'est-il pas évident que c'était la synagogue ? Cependant, elle était stérile. Celle qui était stérile l'a emportée sous l'autre par le nombre de ses enfants. C'est-à-dire, la femme stérile, c'est-à-dire celle qui n'avait pas encore connu Dieu, donc qui n'est pas encore capable d'avoir une descendance divine, en quelque sorte, eh bien, c'est la future Église catholique, qui va prendre la place de l'Église de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de, non pas de l'Église, le peuple catholique va prendre la place, la substitution du peuple catholique qui va prendre la place du peuple juif parce que le peuple juif a crucifié notre Seigneur. Donc là, il se dit aussi dans, ça c'est saint Augustin, Jésus-Christ a été flagellé par les verges des Juifs. Il est flagellé encore par le blasphème des faux chrétiens. Ceux-ci multiplient les coups contre le Seigneur leur Dieu, ils ne le savent pas. Pour nous, faisons autant que lui-même nous en donne la grâce, ce qui est marqué au même psaume pour moi. Pendant qu'il me tourmentait, j'étais revêtu d'un cilice, j'humiliais mon cœur par le genou. Et c'est pour bien me faire comprendre que, de même que le peuple juif qui est tombé dans l'idolâtrie pendant surtout le passage des 40 ans des juifs dans le désert, le peuple juif est tombé dans l'idolâtrie et donc a été rejeté par notre Seigneur Jésus-Christ. De la même façon, le peuple chrétien peut tomber également dans une certaine forme d'idolâtrie, tout simplement en oubliant qu'il a été créé à l'image et à la gloire de Dieu. Donc il faut faire attention et pas se dire simplement il n'y a que les juifs qui peuvent perdre le bon Dieu, nous peuvent perdre le bon Dieu aussi. Hein. Et c'est une image que je dis souvent anciennement parce qu'elle me semble très vraie. Je sais que ça choque un peu certaines personnes, mais j'ai souvent dit cette image que de même que le peuple chrétien a pris la place du peuple juif, ben, de la même façon, si le peuple juif ayant prévariqué a été remplacé par le peuple des chrétiens, mais le peuple des chrétiens, s'il ne fait pas son travail et prévarique lui aussi, eh bien, sera remplacé par d'autres personnes qui vont venir prendre la place. Et on le sent maintenant, peut-être un peu plus aujourd'hui, que si on n'est pas fidèle justement à tout ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, des personnes qui ne sont pas baptisées, des personnes qui n'ont pas reçu la foi catholique vont pouvoir venir prendre la place. Oui. Alors il y a d'autres images qui sont prises qui sont dans l'Évangile. Par exemple l'image j'ai parlé déjà du lépreux. Mais l'aveugle c'est pareil. L'aveugle par exemple dans l'Évangile très souvent représente la cécité spirituelle. De la même façon que l'aveugle physiquement aveugle n'a pas le pouvoir de voir, donc il peut pas voir la lumière du jour. De la même façon l'homme qui vit dans la tiédeur ou qui vit même dans le péché encore plus grave, il n'a pas le pouvoir de voir la lumière divine, c'est-à-dire la lumière de la grâce. Nous verrons que l'aveugle représente le genre humain. Cette cécité a été chez le premier homme le résultat du péché. Et il nous a communiqué à tous non seulement le germe de l'amour, mais encore celui de l'iniquité. Si la cécité est l'infidélité, si l'illumination est la foi, quel est celui que le Christ a trouvé fidèle au moment de sa venue, etc. Ça, c'est un texte de saint Augustin. Hein. Et finit en concluant, si le vice est devenu pour nous une seconde nature, eh bien, tout homme n'est aveugle quant à son âme. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le péché est incapable de voir notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, on le voit même, par exemple, dans les fautes contre la foi. Il y a une chose qui m'a toujours beaucoup frappé dans les apparitions juste après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui avaient perdu la foi, parce qu'ils avaient oublié que notre Seigneur Jésus-Christ avait dit expressément plusieurs fois, le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts, ils ont tous oublié, hein, sauf la Sainte Vierge. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ leur apparaît, ils ne le reconnaissent pas. Par exemple, cette Marie-Madeleine. Marie-Madeleine vient après la résurrection au tombeau pour finir de mettre les épices et les parfums, selon les coutumes juives, sur le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle ne trouve pas notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ va lui apparaître, elle apparaît, elle ne le reconnaît même pas. Pourquoi ? À cause de ce manque de foi. Et donc elle le prend pour le jardinier, elle va se précipiter vers lui en disant « Est-ce que vous savez le corps de mon Seigneur ?» Alors qu'elle connaissait très bien notre Seigneur, elle ne le reconnaît pas à cause de son manque de foi. Notre Seigneur Jésus-Christ va l'appeler par son prénom, Marie, à ce moment-là, elle reconnaît notre Seigneur. Et on voit ça par exemple très bien aussi avec les disciples d'Emmaüs. Pareil, les disciples d'Emmaüs connaissaient très bien notre Seigneur, c'était Cléophas et Saint-Luc vraisemblablement. Bon, ils sont tout tristes et ils parlent de ce qui s'est passé à Jérusalem. Ils vont vers Emmaüs, tout tristes, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort, tout est fini pour eux. Et notre Seigneur Jésus-Christ se joint à eux, commence à leur expliquer les évangiles, ils ne reconnaissent même pas notre Seigneur. Pourquoi ? À cause d'un manque de foi. Et donc il faut se méfier de ce manque de foi, parce que ce manque de foi peut entraîner chez nous une cécité spirituelle qui fait qu'on n'est plus capable de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Alors il y a un autre symbole du péché. Ouais, une certaine gradation dans ces différents symboles. Le dernier symbole, c'est le symbole de la mort. Alors là, c'est l'évangile du jeudi après le quatrième dimanche de Carême. Donc, c'est un évangile très connu, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Bon. Et là, il y a des passages splendides de saint Ambroise qui expliquent bien. Donc, l'évangile nous fait voir plus qu'une simple femme dans cette veuve, entourée d'une grande foule de peuple qui mérita d'obtenir par ses larmes la résurrection d'un jeune homme, son fils unique. Cette veuve est l'image de la Sainte Église, qui, en considération de ses larmes, obtient de rappeler du sein des pompes funèbres ou des profondeurs du sépulcre, pour le faire revenir à la vie, un jeune peuple qu'on lui a défendu de pleurer parce que la résurrection lui est promise. Donc, les pères, là, c'est saint Ambroise, fait remarquer que ce mort, donc le fils de la veuve de Naïm, est porté dans un cercueil de bois. Il est porté dans du bois, sur du bois. Et voilà ce qu'il fait. Il fait un commentaire qui est très beau là. Bien que le bois ne nous ait pas été utile autrefois, il a néanmoins, depuis que Jésus-Christ l'a touché, donc il a touché en deux occasions surtout, il y a deux symboles là. D'abord, quand il a été tout bébé mis sur le bois de la crèche, et deuxièmement, quand à 33 ans, il a été mis sur le bois de la croix. Donc le bois de la crèche symbolise le bois de la croix. Les linges qui entouraient l'enfant Jésus comme bébé nourrisson au moment de la naissance à Bethléem symbolisent le linceul de la croix. Et voilà ce que dit saint Ambroise, c'est très beau. Afin de montrer que le salut devait être, je reprends ma phrase, bien que le bois ne nous ait pas été utile autrefois, il a néanmoins, depuis que Jésus-Christ l'a touché, commencé à servir pour la vie. Afin de montrer que le salut devait être rendu au monde par le gibet de la croix. Et nous, ne gisons-nous pas inanimés sur la civière mortuaire, c'est-à-dire sur un instrument des dernières pompes funèbres, lorsque le feu des passions déréglées nous brûle, ou que la froideur inonde nos âmes, ou bien quand nous sentons la vigueur de notre esprit s'émousser sous le poids de ce corps terrestre et paresseux, ou encore lorsque la pure lumière faisant défaut à notre esprit, il nourrit notre âme d'un air épais et vicié. Voici les porteurs qui nous mènent au tombeau. Les porteurs qui nous mènent au tombeau, donc c'est le symbole, si vous voulez, de la mort spirituelle. Hein. Et après, il explique, ton tombeau, c'est ta déloyauté, ton gosier est un sépulcre blanchi. C'est-à-dire que ce mort qui est porté à la tombe, c'est le symbole justement de l'homme qui a perdu la grâce sanctifiante par l'introduction du péché mortel dans notre âme. Vous voyez ? Alors, il y a encore un dernier texte là, qui est très beau tout à fait à la fin. Le Christ te délivre de ce sépulcre, tu sortiras de ce tombeau si tu écoutes la parole de Dieu. Et s'il est un péché grave que tu ne puisses laver toi-même par les larmes de la pénitence, que l'Église, ta mère, pleure pour toi, elle qui intervient en faveur de chacun de ses enfants, comme une mère veuve pour son fils unique, car elle est pleine de compassion et éprouve une douleur spirituelle qui lui est propre lorsqu'elle voit ses enfants entraînés à leur perte par des vices mortels. Donc c'est la veuve de Naïm donc, qui pleure la mort de son fils, représente l'Église qui pleure la mort de ses enfants. Et donc le temps de la passion, c'est justement ce temps justement qui nous fait pleurer nos propres péchés pour nous libérer de cette mort du péché et nous faire aller vers le ciel. D'accord. Alors on peut, encore une fois, je n'ai pas le temps de tout expliquer parce qu'il en faudra, il faudrait beaucoup plus de temps, je n'ai pas le temps, on va arrêter là pour aller un petit peu méditer le chapelet devant le Saint-Sacrement. Donc, vous voyez, je pense que la conclusion, c'est ça. On ne peut pas, encore une fois, en trois petites conférences comme ça, expliquer tout ça, mais ça nous donne envie, je dirais, d'aller puiser, justement, dans les textes de la Passion, puiser dans la liturgie de la Passion, l'énergie spirituelle dont on avait besoin, justement, pour nous rapprocher du bon Dieu. C'est pour ça que je vous conseille beaucoup pour ces trois grands jours saints, le Triduum sacré. Dès qu'avant, maintenant malheureusement c'est perdu, mais avant, au Moyen-Âge chrétien, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, tous les commerces étaient fermés, tout le monde arrêtait littéralement de travailler pour se mettre en prière pendant trois jours complets pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'était encore comme ça il y a un demi-siècle, encore en Espagne, par exemple. Maintenant, c'est complètement... Tout ça, c'est perdu, c'est terminé, malheureusement, vous voyez. Donc, je conseille beaucoup pour ces trois derniers jours de la Semaine Sainte, donc jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, lisez au moins les textes liturgiques du jour dans votre missel. Pour préparer un peu les cérémonies. Parce que souvent, les gens découvrent les cérémonies hein, au moment où ils sont dessus. C'est un petit peu tard. Il vaut mieux les lire en avance. Tout demain, par exemple, vous avez de très belles cérémonies. Bon, c'est une institution. Demain, jeudi saint, c'est quoi? C'est l'institution de la Sainte Eucharistie, l'institution sacerdoce, l'institution de la Sainte Messe. Au séminaire des Cônes, je me rappelle très bien, le jeudi saint, c'était un très grand jour de fête. C'était une journée joyeuse jusqu'à la fin de la messe. Et à ce moment-là, on passait de nouveau dans la douleur parce que c'était le transport du Saint-Sacrement donc à l'hôtel du reposoir et la veillée jusqu'à minuit. Donc, ce qu'on fera demain avec la grâce du bon Dieu. Donc dès demain, il y a ces deux belles cérémonies. Il y a la cérémonie du lavement des pieds. Si j'arrive à trouver 12 pieds, les hommes, là, vous êtes tous invités.
24.
Hein. Oui, bon, il faut trouver des pieds. J'ai besoin de 12 pieds d'hommes. On va essayer de trouver 12 pour demain. Donc, il y a l'avant des pieds, et puis à la fin, il y a le transport du Saint-Sacrement, l'hôtel du reposoir, qui est splendide aussi. Avant que j'oublie, attention pour demain. Demain, donc jeudi et vendredi, le chapelet aura lieu à 5 heures. Suivi des vêpres pour nous, parce que comme la messe le soir est à 7 heures, c'est un peu trop tard d'avoir tout à 6 heures. Moi, j'ai besoin de finir pour les confessions éventuelles. Bon, vous pouvez aller maintenant devant le Saint-Sacrement, devant la chapelle. On va avoir une méditation, un mystère douloureux devant le Saint-Sacrement.